Véroy, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manerakis à la présentation de cette édition du mardi 30 novembre 2021. Voici d'abord le sommaire. Kinshasa et Kampala annoncent des frappes depuis l'Ouganda contre des positions de rebelles ADF dans l'est de la RDC. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed appelle les rebelles tigréens à se rendre et affirme que les forces gouvernementales se rapprochent de la victoire. La Barbade, île la plus orientale des Caraïbes, est devenue une république. L'OMS demande aux États membres une riposte rationnelle aux variants Omicron. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. La RDC et l'Ouganda ont annoncé presque simultanément que des frappes aériennes et d'artillerie ont visé ce mardi des positions rebelles des forces démocratiques alliées en RDC depuis l'Ouganda. Les ADF sont accusés par Kinshasa de nombreux massacres de civils et par Kampala de récents attentats sur son sol revendiqués par le groupe État islamique. Le point avec Nanit Talani.
Comme annoncé, les actions ciblées et concertées avec l'armée ougandaise ont démarré aujourd'hui avec des frappes aériennes et des tirs d'artillerie à partir de l'Ouganda sur les positions des terroristes ADF en RDC, a indiqué sur Twitter le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Omuyaya. Ce matin, nous avons lancé des frappes aériennes et d'artillerie conjointes contre des camps ADF avec nos alliés congolais, a dit également sur le même réseau social la porte-parole de l'armée ougandaise, Flavia Bikasso. Elle a déclaré à Reuters qu'elle n'avait pas plus d'informations sur les attaques, mais que les pays n'en resteraient pas là. Pascal Sambili, responsable de la chefferie de Watalinga, a déclaré que la communauté a été réveillée par les bombardements qui se sont poursuivis dans la matinée, provoquant la panique. Un conseiller de la présidence à Kinshasa a affirmé dimanche sous couvert d'anonymat que le président Félix Tshisekedi avait autorisé l'armée ougandaise à traverser la frontière pour combattre les rebelles ADF. Cette autorisation a été critiquée par certains Congolais. Lundi, la RDC a nié avoir accepté de mener des opérations conjointes avec l'Ouganda pour traquer les ADF, insistant sur le fait qu'ils ne faisaient que partager des renseignements.
Toujours dans l'est de la RDC, au moins 2 travailleurs humanitaires ont été enlevés non loin du parc des Virunga, a dit le comité international de la Croix-Rouge. Ils se rendaient à Sake, près de Goma. En cours de route, ils ont été arrêtés par des hommes armés. Dans le convoi de 6 personnes, 2 ingénieurs du CICR, un Congolais et un étranger, ont été kidnappés. Les 4 autres sont sains et saufs, a déclaré Paulin Pachingezi Moucha Mouka, porte-parole du CICR en RDC. La présence du groupe russe Wagner en République centrafricaine et son emprise sur le pays pourrait conduire l'Union européenne à mettre un terme à sa mission de formation des forces armées centrafricaines, ont annoncé mardi les services du chef de la diplomatie Joseph Borrell. Nous sommes préoccupés par la présence d'un groupe Wagner dans 23 pays africains et les liens très étroits de cette société avec la Russie, a déclaré Nabila Mastrali, porte-parole de Joseph Borrell. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed exhorte les rebelles du Tigré à se rendre, affirmant que les forces gouvernementales se rapprochaient de la victoire. Monsieur Abiy lance cet appel une semaine après s'être engagé à diriger les opérations militaires sur le front. Le point avec Rosine Munezero.
La jeunesse du Tigré est en train de tomber comme des feuilles. Sachant qu'elle est vaincue, elle est dirigée par quelqu'un qui n'a pas de vision ni de plan clair, a déclaré le premier ministre Abiy Ahmed dans un commentaire sur les médias d'État. Cette vidéo est la dernière d'une série montrant Abiy Ahmed en uniforme avec des soldats dans ce qui semble être la région d'Afar, où les rebelles tigréens tentent de prendre le contrôle d'une route stratégique reliant Djibouti à Addis Abeba. Lundi, un porte-parole du TPLF a qualifié le déploiement militaire éthiopien de cirque, impliquant des jeux de guerre grotesques. Les craintes d'une marche des rebelles sur la capitale ont incité les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Grèce et d'autres pays à demander à leurs citoyens de quitter l'Éthiopie dès que possible. Selon les Nations Unies, les combats ont fait des milliers de morts, déplacer plus de 2 millions de personnes et plonger des centaines de milliers d'autres dans des conditions proches de la famine.
À Khartoum, les forces de sécurité soudanaises ont tiré mardi des grenades lacrymogènes sur des milliers de manifestants qui réclament un transfert du pouvoir aux civils. Ces violences ont eu lieu aux abords du palais présidentiel, siège des autorités de transition chapeauté par le général Abdel Fattah al-Burhan, auteur du putsch du 25 octobre. Des dizaines de terroristes ont été tués, 300 suspects interpellés et des bases détruites entre le 21 au 27 novembre lors d'une opération conjointe entre les armées du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo, a annoncé mardi le ministre burkinabé de la Sécurité, Maxime Koné. Cette mutualisation des effectifs et des moyens a permis à nos forces de défense et de sécurité de mener plusieurs opérations de patrouille, de procéder à des bouclages de zones suivis de fouilles, des vérifications d'identité et de détruire des bases d'un groupe armé terroriste, a-t-il dit. Quelques 145 Camerounais ont demandé mardi à la justice française de contraindre le groupe Bolloré à fournir des documents pour établir ses liens avec la société camerounaise de palmeraie Socopalm, qu'ils accusent d'attenter à leurs droits. Le Socopalm inflige des préjudices au quotidien à ses villageois, a dénoncé leur avocat Maître Fyodor Rilov. Selon lui, l'exploitation des palmeraies condamne l'accès à des terrains et lieux de sépulture et pollue les eaux.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a appelé les États membres au calme face à Omicron. Le patron du laboratoire Moderna a affiché son pessimisme sur l'efficacité des vaccins actuels et les restrictions se multiplient dans le monde. Claire Morizibourg.
La réponse mondiale doit être calme, coordonnée et cohérente, a plaidé Tedros Adhanom Ghebreyesus au siège de l'OMS à Genève. Il s'est dit préoccupé par le fait que plusieurs États ont pris des mesures brutales qui, selon lui, sont infondées et inefficaces et ne feront qu'aggraver les inégalités. Monsieur Tedros a remercié le Botswana et l'Afrique du Sud d'avoir détecté, séquencé et signalé ce variant aussi rapidement et s'est dit profondément préoccupé par le fait que ces pays sont maintenant pénalisés par d'autres pour avoir fait ce qu'il fallait. Le patron du laboratoire pharmaceutique Moderna a affiché lui son pessimisme sur l'efficacité des vaccins actuels contre Omicron. L'Espagne est le dernier pays à avoir annoncé ce mardi la suspension des vols en provenance d'Afrique australe. Les Pays-Bas ont reconnu avoir détecté le variant Omicron dans un test le 19 novembre.
La Barbade devient une république et ne reconnaît plus la reine Elisabeth II comme chef d'État. Sandra Mason, jusque-là gouverneure générale du pays, est la nouvelle dirigeante, n'est-ce pas, Abdelrahman Dia?
Sandra Mason a prêté serment à minuit lundi soir dans la capitale Bridgetown lors d'une cérémonie officielle marquée également par le remplacement de l'étendard de la reine par le drapeau présidentiel. Moi, Sandra Prunella Mason, jure d'être fidèle et de porter une véritable allégeance à la Barbade conformément à la loi, avec l'aide de Dieu, a déclaré la nouvelle présidente. Elle a été élue en octobre au suffrage universel indirect. Déjà indépendante du Royaume-Uni depuis 1966, la Barbade a donc célébré sa transition de la monarchie vers un régime républicain après quelques 4 siècles de suggestion aux souverains britanniques. Cette cérémonie n'était pas ouverte au public. Elle s'est tenue en présence du prince Charles, le fils de la reine Elisabeth II, et de Rihanna, la star mondiale originaire de l'île. Mais le couvre-feu, dû à la pandémie, a été suspendu pour que les habitants puissent profiter des festivités, dont des projections et des feux d'artifice à travers l'île. La Barbade reste membre du Commonwealth.
Les États-Unis ont annoncé mardi avoir retiré les ex-rebelles des forces armées révolutionnaires de Colombie de leur liste noire des organisations terroristes étrangères. Le département d'État révoque la désignation des FARC en tant qu'organisation terroriste étrangère, a déclaré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans un communiqué. Après les législatives anticipées du 10 octobre en Irak, plusieurs forces se dégagent au sein du nouveau Parlement fragmenté de 329 députés. Le courant sadriste domine, dirigé par le leader chiite Moqtada Sadr. Le mouvement devient la première force du Parlement avec 73 députés, selon les résultats définitifs publiés mardi contre 54 dans le Parlement sortant. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco avec Claire Morin-Gibourg.
Au Togo, les autorités ont annoncé la mise en place d'un fonds pour l'accès universel à l'électricité appelé Tinga pour les populations à faible revenu. Le fonds permettra de couvrir les frais de branchement au réseau national de distribution électrique de basse tension, les coûts de réalisation des travaux d'installation électrique intérieure, ainsi que l'acquisition des équipements électriques nécessaires et des kits solaires. En Afrique du Sud, le taux de chômage a de nouveau augmenté au troisième trimestre 2021 pour établir un nouveau record de 34,9% selon le bureau des statistiques du gouvernement Stat-SA. Le nombre de personnes employées a diminué de 660 000 pour atteindre 14,3 millions sur une population totale de 59 millions. 37,3% des femmes sont au chômage contre 32,9% des hommes. Les femmes noires sont au chômage à 41,5% contre 9,9% pour les femmes blanches. Quelques 145 Camerounais ont demandé aujourd'hui à la justice française de contraindre le groupe Bolloré à fournir des documents pour établir ses liens avec la Soka Palm, la société camerounaise de palmeraies qu'ils accusent d'attenter à leurs droits. Selon leur avocat, l'exploitation des palmeraies condamne l'accès à des terrains et lieux de sépulture et pollue les eaux.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le 7e ballon d'or de Lionel Messi, remporté devant Robert Lewandowski du Bayern Munich, fait grincer des dents, choix scandaleux, titre le quotidien allemand Bild, ajoutant « Depuis des années, la star du Bayern est performante, accumule les buts et les titres, mais ça ne suffit visiblement pas. » La saison dernière, l'attaquant polonais a inscrit en effet 41 buts en Bundesliga, battant le record mythique de Gerd Müller, 40 buts lors de la saison 1971-1972. Honnêtement, je n'y comprends plus rien à lâcher Lothar Matthäus, ballon d'or 1990. Il m'est à chaque fois plus difficile de croire en ses récompenses dans le football, affirme Iker Casillas, le légendaire gardien espagnol désormais retraité. Ce prix est devenu une farce, s'exclame la Gazzetta dello Sport en Italie. Le meilleur africain de ce classement pointe à la 7e place. Il s'agit de l'Égyptien Mohamed Salah. Pour Amine Birouk, consultant sportif, cette consécration de Lionel Messi suscite des interrogations.
Nouvelle fois, la notion de marketing a peut-être triomphé lors de ce Ballon d'Or 2021, parce que les critères sont toujours flous et le collège des votants est assez confus. Critères flous dans la mesure où est-ce qu'on récompense le meilleur joueur tout court ou le meilleur joueur de la saison. Dans tel cas d'espèce, quels sont les critères pour déterminer le meilleur joueur de la saison ? Nombre de buts, performance individuelle ou performance collective ? Par rapport, bien évidemment, à la victoire de Lionel Messi, il n'y a pas lieu de considérer ou d'oublier ou d'omettre que c'est peut-être un des 5 meilleurs joueurs l'histoire du football. Mais a-t-il suffisamment mérité ce prix ? C'est une question que l'on pourrait s'interroger légitimement dans la mesure où les performances individuelles et collectives de Lewandowski étaient supérieures. Il a remporté la Bundesliga, il a été meilleur buteur de la saison, il a porté son équipe jusqu'en quart de finale de Champions League. Cela résume ma pensée. Aujourd'hui, le marketing, le glamour, le nom, la réputation, la provenance, l'origine sont aujourd'hui beaucoup plus importants dans la mesure où il y a un collège de votants de nombreux pays, capitaines, sélectionneurs nationaux, journalistes, et qu'une voix aux États-Unis et en Europe, et qui voit une voix sur certains continents ou sur certaines places qui n'ont pas de tradition de football.
Amine Birouk, consultant sportif. Le trophée Yacine récompensant le meilleur gardien est revenu à l'Italien de l'AC Milan qui a signé cette année au PSG Gianluigi Donnarumma devant le Sénégalais de Chelsea Edouard Mendy. Pour Babacar Ndaoufay, chef du service des sports de Imedia Dakar, le choix était biaisé dès le départ par l'organisateur du Ballon d'Or.
C'était biaisé d'avance par les organisateurs, France Football notamment, qui a pris délibérément le choix d'inscrire un gardien, en l'occurrence l'Italien Donnarumma, dans la liste définitive des 30 meilleurs joueurs de l'année, alors qu'il y avait encore d'autres gardiens en course, Edouard Mendy, Yann Oblak. Quand l'organisateur dit, en faisant son premier tri de façon, on va dire indirecte, mais c'est presque direct, en disant parmi les 30 meilleurs joueurs du monde, il y a un gardien, après vous allez devoir choisir d'autres parmi d'autres gardiens, dont lui, ça donne donne déjà une indication assez claire de leur ferme volonté d'orienter le vote. Ça pose un problème d'équité, de justice tout simplement. Et...
Babacar Ndaoufaï, chef du service des sports de Imedia, joint à Dakar.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelaki va de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie de l'armée ont été lancés depuis le sol ougandais en direction des positions rebelles ADF dans l'est de la RDC. Le début officiel des opérations concertées entre les deux armées suscite des réactions. Eddie Isango, adjoint à Kinshasa et membre de la coalition Pro-Tshisekedi, Union pour la Nation, le député national André Claudel Lubaya.
Nous avons été informés ce matin par la voie autorisée que l'armée ougandaise, en coopération avec l'armée congolaise, avait lancé des opérations aériennes sur notre sol visant la destruction de camps de ZADF Malou. Pour nous, nous considérons que c'est une situation extrêmement grave dans la mesure où, dans sa communication d'hier, le gouvernement avait plutôt évoqué l'échange d'informations. Et donc, échanger les informations et faire des opérations, c'est deux situations différentes. Et c'est pour cette raison que j'ai dit au gouvernement de ne pas traiter la question comme un affront et de ne pas faire un défi au peuple congolais non plus, mais plutôt de gérer ça avec mesure. Ça veut dire user de la plus grande transparence, communiquer le plus possible, donner la meilleure et la vraie information possible à l'opinion et surtout et enfin s'assumer. Ici, assumer veut dire quoi? Reconnaître que, au niveau de l'état des sièges, notre appareil militaro-sécuritaire n'a pas pu en découdre avec le groupe rebelle et autres ADF qui sont là-bas. Mais deux, en tirer quand même les conséquences et en tirant ces conséquences, dire pourquoi on en est arrivé là et inviter une armée étrangère, une force armée étrangère sur le territoire congolais, il y a des lois du pays qui résistent à cela et j'invite le gouvernement à se conformer à ces lois de la République pour rassurer tout le monde, pour enlever tous les doutes possibles et permettre que tout ce qui doit se faire se fasse dans une dynamique de rassemblement, de front commun de la nation contre l'insécurité dans l'est du pays.
Mais qu'est-ce qui gêne que ce soit l'armée ougandaise qui vienne à l'aide de l'armée congolaise?
L'histoire récente nous rappelle que l'armée ougandaise est une armée de mercenaires qui est venue voler, tuer et piller au Congo, particulièrement à Kisangani. Il y a 20 ans de cela, les traumatismes demeurent, les séquelles demeurent. Aujourd'hui, ce n'est pas une armée amie. L'armée ougandaise reste au-delà de tout une armée ennemie. Et ses intentions sur le Congo sont connues. Ses capacités de nuisance contre le Congo sont connues.
André Claudel Lubaya, député national et président de l'Union démocratique africaine, joint à Kinshasa. Demain, 1er décembre, est la journée mondiale de lutte contre le sida. La Côte d'Ivoire est l'un des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest avec un taux de prévalence de 2,7%. Le contexte socio-culturel lié à la stigmatisation, à la discrimination en direction des personnes vivant avec le VIH peut constituer un frein à l'accès aux soins. Le reportage de Delphine Boys, notre correspondante à Abidjan.
Le VIH-Sida est un problème de santé publique et constitue une menace pour le monde du travail. Professeur Yves Yeboué est directeur de la santé, de la sécurité au travail du BIT, le Bureau international du travail.
Le VIH-Sida est un problème très important, tant au niveau de la population générale qu'au niveau du monde du travail. Et n'oubliez pas qu'un travailleur, par exemple, a à charge toute une famille. Et chaque fois que quelqu'un est atteint dans le monde du travail, c'est la famille qui est concernée.
concernée, mais c'est aussi l'entreprise elle-même qui est concernée. Et ça peut désorganiser tout un système de travail.
Discrimination et stigmatisation. Les trois des personnes vivant avec le VIH sont souvent violées du fait de leur séropositivité présumée ou connue. Hélène Nyonsaillé est responsable du syndicat de l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire.
Avec le VIH-Sida, il y a beaucoup de problèmes dans les entreprises. D'abord à l'emploi. Il y a certaines entreprises qui exigent, par exemple, le test du sida. Le travailleur n'a pas demandé à être contaminé, il a droit au travail.
Sur le plan des interventions en droits humains, en lien avec le VIH, Michel Goba, chargé de programme à l'ONG Alliance Côte d'Ivoire, présente quelques données chiffrées.
On a pu notifier depuis 2019 jusqu'à ce jour 1800 cas. En termes de proportion, les personnes vivant avec le VIH sont en tête.
Réaction du professeur Yves Yeboué, médecin de la sécurité du travail.
Nous ne souhaitons pas que quelqu'un qui est infecté, par exemple, il fasse l'objet de discrimination, de stigmatisation ou qu'il soit rejeté du monde du travail.
Expert en VIH-Sida, Amadou Cissé relève l'impact économique de la pandémie sur la survie des entreprises.
Nous avons beaucoup plus peur de par son impact économique parce que cette pandémie affecte les ressources humaines en milieu de travail.
Prise en charge et accès au traitement des travailleurs nous partagent leur situation.
Je viens en charge depuis près de 10 ans.
Les médicaments sont gratuits, on les gagne facilement. Les médecins nous soutiennent puisque c'est eux qui sont là à notre écoute.
Professeur de médecine du travail à l'UFR des sciences médicales de l'Université du Cocody, professeur Jean-Sylvain Bonny revient sur la qualité de l'offre de soins à offrir aux travailleurs.
Mettre l'accent sur les différentes visites et les soins pertinents à donner en cas de maladie.
L'élaboration d'une bonne politique de prise en charge du VIH-Sida en milieu professionnel participe à une meilleure santé des ressources humaines et fait en outre rayonner le monde du travail. Delphine Bouise, Abidjan, VOA, Afrique.
Pour rester en Côte d'Ivoire, la caricature ou le dessin de presse a bonne réputation à raison de la liberté d'expression. Aujourd'hui, beaucoup voient la liberté de ton et d'expression comme un facteur de stabilité et de paix alors que le pays a traversé une période de vive tension. Nous le découvrons dans ce reportage de Yacine Thio à Abidjan.
Pour la sixième fois en près de 20 ans, la commune de Trècheville, au cœur de la capitale économique ivoirienne, accueille le festival Cocobule, le rendez-vous du dessin de presse et de la bande dessinée. Sur différents sites aménagés pour l'occasion, dessinateurs et professionnels de la presse d'Afrique et d'Europe débattent avec un public composé à majorité d'élèves de la ville autour du thème « Le dessin comme outil de prévention des conflits ». À la tête du comité d'organisation du festival, par ailleurs directeur de la publication de Biche, l'hebdomadaire satirique le plus connu du pays et très apprécié par les Ivoiriens, Lassane Zohoré. Ce dessinateur averti connaît mieux que personne le pouvoir du dessin de presse dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a connu des conflits et qui sort d'un cycle électoral tendu.
Le dessin de presse peut apporter beaucoup, étant donné que nous sommes dans une population à majorité analphabète. Le dessin peut être un excellent médium de communication. Avec des images, ça fonctionne mieux. À nos modestes niveaux, on essaie d'apporter notre contribution à la cohésion ivoirienne.
Et le dessinateur a sa petite idée pour expliquer le succès du dessin de presse ivoirien.
Mais l'humour est important en Côte d'Ivoire parce que nous avons une culture de l'humour en Côte d'Ivoire et nous avons une culture de l'autodérision. Donc ce qui fait que c'est par l'humour qu'on arrive à passer les vrais messages. Si nous en sommes sortis avec la crise post-électorale, c'est bien parce que l'humour a joué un grand rôle. Il faut voir seulement comment les Ivoiriens ironisent sur leur malheur et tout ça, pour comprendre que l'humour est très important.
Auteur de plusieurs BD à succès, dont Aya de Yopougon, traduite en 15 langues et qui a placé la Côte d'Ivoire sur la carte mondiale de la bande dessinée, Marguerite Aboué observe cette relève et les difficultés auxquelles elle fait face.
Le dessin a toujours été propre un peu aux jeunes. C'est lorsque, après, ils grandissent, c'est ça, c'est un problème, parce qu'ils ne peuvent pas en faire leur métier, parce qu'il y a... aucun secteur, aucune formation, et puis en plus les parents leur disent plutôt mais c'est pas un vrai métier. Cette jeunesse aujourd'hui elle a de la chance quand même parce qu'on a l'INSAC quand même qui forme beaucoup de dessinateurs, enfin en tout cas à tous les métiers de l'art, et aussi il y a les réseaux sociaux.
Une trajectoire d'autodidacte que connaît par cœur JM Tatou, le jeune artiste prometteur qui a réalisé la fresque du festival en reprenant le thème de la À sa manière, lui aussi cherche à réconcilier les citoyens autour de valeurs et d'images communes.
Comme on le dit chez nous, une image vaut mille mots. Donc à travers le dessin, on peut transmettre des émotions. Et pour nous, la jeunesse est vraiment l'avenir de ce que nous pratiquons. Vraiment, étant jeune, on n'a pas eu l'occasion de côtoyer des personnes assez passionnées. Mais aujourd'hui, grâce à Internet et toutes ces structures que vous connaissez, Bridge, Cartooning for Peace, et toutes ces structures qui font la promotion des arts plastiques, nous pensons que vraiment le moment est bien choisi pour faire la promotion davantage de cette culture qui est la nôtre.
À l'issue de 3 jours de festival, plus aucun doute. La paix passe aussi par le dessin et celui-ci, en Côte d'Ivoire, a encore de beaux jours devant lui. Yassine Sio pour VOA Afrique, Abidjan.
Avec vous dans Washington Forum cette semaine, zoom sur les relations Chine-Afrique avec en toile de fond la participation d'investisseurs chinois et du continent au forum de coopération Chine-Afrique à Dakar. Pékin promet une nouvelle ère dans un partenariat basé sur l'égalité. Les Africains, eux, appellent à une relation moins centrée sur la dette et qui profite à leurs économies. Comment la Chine s'est-elle imposée comme un partenaire incontournable de l'Afrique? Comment le continent peut-il tirer son épingle du jeu dans cette relation? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
La Barbade tournait la page de son histoire et rompt les liens de sujétion depuis des siècles à la Grande-Bretagne. La reine Elisabeth II est désormais remplacée par une présidente locale, Sandra Mason, jusque la gouverneure générale. Elle a prêté serment ce mardi dans la capitale de Bridgetown. Le drapeau présidentiel a remplacé l'étendard de la reine. Quelle est la portée de ce geste d'affirmation de l'indépendance de la Barbade? Nanit Talani s'est entretenue avec Robin Johannem, chercheur d'origine caribéenne, basé à Minneapolis, dans le Minnesota, ici aux États-Unis.
Dans les Caraïbes en général, il y a eu ce mouvement de séparatisme, que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, Barbade, etc. Les gens cherchent tous les temps à être maîtres de leur destinée, assumer cette responsabilité. Mais il faut bien noter qu'au moment de cette célébration, l'invité d'honneur a été Prince Charles. Donc il faut déjà entrevoir que c'est une indépendance, mais de toute façon, on peut garder les liens avec la couronne britannique.
Que va perdre la Grande-Bretagne et que gagne la Barbade?
Pour les Britanniques, ils ont des gains qui s'étendent sur des siècles. Ça fait près de 4 siècles depuis le premier bateau négrier est arrivé dans l'île caraïbienne. Maintenant, pour ce qui a trait à la géopolitique, les Britanniques ont à craindre les manœuvres de la Chine parce que la Chine est en train de devenir une puissance mondiale. Il faut bien surveiller les manœuvres de la Chine, mais les Occidentaux ont déjà moissonné à peu près tout ce qu'il y a à moissonner dans les régions caribéennes. C'est qu'il reste encore quelque chose à désirer, mais je crois qu'il faut bien surveiller la Chine pour le moment.
Qu'est-ce que cette indépendance change vraiment dans les relations entre la couronne britannique et la Barbade?
Comme je dis, il faut noter la présence du Prince Charles au milieu de cette célébration. Il est l'un des invités d'honneur, mais essayant de passer esclavagiste au désir ardent des nationaux pour contrôler leur destinée. Maintenant,
quels sont les grands défis auxquels l'île sera confrontée toute seule?
L'île est en face de plusieurs défis. Leur économie dépend surtout du tourisme. Et puis maintenant, il y a le Covid. Il y a également le chômage. Donc, il y a des défis. Et les Britanniques sont en position supérieure, quoi. Il faut garder les liens entre la Grande-Bretagne et Barbados parce que les touristes, ça compte beaucoup là-bas. Donc, il y a des enjeux économiques. Et aussi, ils sont en train de négocier de nouvelles alliances avec la Chine. Donc, le jeu n'est pas aussi simple que ça. Il faut maintenant une approche diplomatique pour ne pas effaroucher les Britanniques pendant qu'on essaie d'attirer les Chinois. il y a bien des défis là-bas.
Est-ce que cette indépendance de la Barbade peut avoir un effet sur d'autres territoires des Caraïbes, comme la Guadeloupe ou la Martinique, qui sont en train d'organiser des mouvements qui tendent de plus en plus vers la revendication d'une autonomie?
Bien sûr, je l'ai mentionné dans mes premiers mots. J'ai dit qu'il n'y a pas que Barbade soit la plus récente république, mais ça va faire école.
Ruben Johannem, chercheur d'origine caribéenne, basé à Minneapolis, dans le Minnesota, ici aux États-Unis. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Bureau Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Mangakis a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur bureauafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. À la prochaine.